Daf Nun Amud Bet, en bas du Hamoud de deux points. Bnei Chozaé Nahage de Mafreshe Chala Meharoza. Les habitants de Chozaé avaient l'habitude de prélever la Chala du riz. Alors Minadin, on ne prélève la Chala que des cinq sortes de céréales. Chitin, Seorin, Kousmin, Chibolet, Chua, les Chiffon. Le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Mais eux avaient l'habitude de prélever la Chala aussi du riz. Quand ils faisaient une pâte de riz, ils prélevaient la challah, certainement pour ne pas qu'il y ait de confusion entre différentes sortes de pâtes, donc ils prélevaient aussi la challah du riz. À tout vint brûler les Rav Yosef, on a été raconter ça à Rav Yosef, « Amarleu nichla zar beapayru » et Rav Yosef a dit que un zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, peut manger cette challah devant eux, donc ça veut dire que on peut leur montrer que il n'y a pas de nécessité de prélever la challah du riz, donc on a le droit de manger cette challah, même quelqu'un qui n'est pas Kohen a le droit de manger cette challah devant eux. Itévé Abayé, Abayé lui a objecté, Dvarim Amutarim Vachirim Nagou Bahem Nisour, Iyata Racha et la Tiran Bifnem. C'est écrit que quelque chose qui est permis, mais certains ont l'habitude de l'interdire, on n'a pas le droit de le permettre devant eux. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire devant eux quelque chose que eux ont l'habitude d'interdire. Donc, comment ça se fait que Rav Yosef a dit que un zar pouvait manger cette challah devant les habitants de Chozaé. Amarlo, Rav Yosef lui a répondu, Velav mitmar ala amar Afrizda bekutae. Il lui a dit, mais est-ce que Afrizda n'a pas dit à ce propos que c'est seulement par rapport à des koutim, qu'on va voir parce qu'on craint que les koutim croient que, en croyant que c'était interdit, si on le permet devant eux, ils vont permettre même d'autres choses qui sont vraiment interdites. Donc, ces habitants de Chozaé n'étaient pas des koutim, donc c'est pour ça que Rav Yosef a permis de manger la challah devant eux. Alors Abaye lui répond, Koutaye maïtama, mishum de mesar chemilta. Pourquoi est-ce que devant les koutim on n'a pas le droit de le faire? De peur que ils permettent aussi des choses qui sont interdites. Anachin shenami sar chemilta. Et donc il lui dit, mais c'est pareil aussi pour ces gens, les habitants de Chozaé, on craint que, comme c'est des gens qui n'ont pas étudié, donc si on mange la challah du riz devant eux, ils risquent après aussi de ne pas faire attention à la challah des cinq sortes de céréales. Alors, Tosfot pose la question, mais on a vu dans la Mishnah que quelqu'un qui va d'un endroit où on a l'habitude de permettre quelque chose et il se rend à un endroit où on a l'habitude de l'interdire, il est tenu de respecter la coutume de cet endroit. Et dans la Mishnah, on a fait une différence entre les coutumes et d'autres personnes. Donc comment ça se fait que l'Agma a dit ici que Dvarim Amutarim Vachrim Naguba Misur Yatarachel Atiram Bifnem, c'est seulement devant des koutim mais pas devant d'autres personnes. Et Tosfot dit qu'en fait on parle de deux sortes de minagim différents. Dans la Mishnah on parle d'un minag qui a été institué par les Chachamim. Donc c'est un minag important. Et là effectivement, peu importe qui sont les habitants de cet endroit, lorsqu'on sera à cet endroit, on est tenu de respecter cette coutume, alors que l'Agma parle ici d'une coutume que les gens de cet endroit ont eux-mêmes pris sur eux, et c'est pas quelque chose qui a été institué par les Talmidei Chachamim. Et là, Amar Rav Ashi, donc à cause de cette question, Rav Ashi propose une autre explication, et il dit Chazinan, on va voir, c'est-à-dire ça dépend des cas. Si la majorité de ces gens, les gens de cet endroit, mangent du riz, mangent du pain de riz, donc il ne faut pas que un zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, mange cette challah devant eux, parce qu'ils risqueraient d'oublier le principe de challah. Parce que comme ils n'ont pas l'habitude de faire des pâtes de céréales, donc si ils arrêtent de prélever la challah de la pâte de riz, il risque d'oublier complètement le principe de challah. Vei ruban daga et dagan achle. Et si la majorité de ces gens mangent du pain de céréales, nichla zar beapayu. Là, il a le droit de manger un zar. Quelqu'un qui n'est pas Kohen a le droit de manger la challah devant eux. Dilma te la fouché min achiyuv al aptur min aptur al achiyuv. Parce que là, au contraire, on veut leur montrer que il n'y a pas de chiyuv de challah sur le riz, parce qu'ils risqueraient de prélever de quelque chose qui est chayav sur quelque chose qui est patour, de quelque chose qui est patour sur quelque chose qui est chayav. C'est-à-dire qu'il risquerait soit de prélever la challah d'une pâte de céréales sur du riz, ou alors de prélever la d'une pâte de riz sur une pâte de céréales. Et dans les deux cas, ça pose un problème de Tevel, parce que s'il prélève d'une pâte de riz sur une pâte de céréales, donc c'est-à-dire qu'en fait la pâte de céréales, il n'y a pas de challah qui a été prélevée puisque le riz est pas tour de challah, donc cette challah n'a pas de valeur. Et ils vont penser que la challah est déjà prélevée, donc ils vont manger cette pâte qui est considérée comme tevel puisqu'on n'a pas prélevé la challah dessus. Et inversement, dans le cas où on prélève d'une pâte de céréales sur une pâte de riz, ça pose aussi un problème parce que comme ça n'a pas de valeur de challah puisque le riz n'est pas chayav de challah, donc quand on va le donner au Kohen en tant que challah, il va penser qu'il a le droit de le manger, alors qu'en fait c'est pas de la challah, mais c'est resté du tevel, c'est resté une pâte de céréales qui est tevel puisqu'on n'a pas prélevé dessus la challah. Donc ça risque aussi de poser un problème que le Kohen va consommer du tevel. Goufa. Alors Agma revient sur cet enseignement. Dvarim amutarim vachirim nagubam isur yatarachay la tiran. Donc on a dit que quelque chose qui est permis et que certains ont la coutume d'interdire, on n'a pas le droit de le permettre devant eux, c'est-à-dire on n'a pas le droit de se conduire comme si c'était permis devant en leur présence. Amar Rav Chisda, Bekutaya Askinan, et Rav Chisda dit que il s'agit de koutim. C'est devant les koutim qu'on n'a pas le droit de le faire, parce que, comme on a dit, il risquerait de déborder, de permettre même des choses qui sont vraiment interdites. La Gemara demande Vekulea Almalo, mais est-ce que tout le monde, devant tout le monde, ce dîne ne s'applique pas? C'est-à-dire si c'est pas des koutim, ce dîne ne s'applique pas. Vatania, pourtant enseigné dans une braïta, Shne Achim Keechad, deux frères peuvent se baigner ensemble, et ça pose pas de problème de pritsout, c'est-à-dire on ne dit pas que comme ils sont toujours ensemble et que maintenant ils se voient tous les deux nus, ça risque de les amener à faire Mishkav Zachor. Vendre Chatzim Shne Achim Bekavul, mais à Kavul, ils ont l'habitude d'interdire à deux frères de se baigner ensemble nus. Il est arrivé une histoire avec Yehuda et Hillel qui étaient tous les deux les fils de Rabban Gamliel, et ils se sont baignés ensemble dans la ville de Kaboul, Velaza Amrou. Et tout le monde a commencé à parler sur ce qu'ils ont fait, et ils ont dit on n'a jamais vu qu'on faisait une chose pareille, que deux frères se baignaient ensemble. Et suite à ça, Hillel est sorti donc du bain, il a été dans la pièce extérieure du bain pour ne pas rester avec son frère. Et il n'a pas voulu leur dire que c'est quelque chose qui est permis. Donc on voit qu'il a évité de faire quelque chose que eux avaient l'habitude d'interdire. Au départ, ils ne savaient pas que eux ils avaient l'habitude de l'interdire, mais quand il a entendu ça, il est tout de suite sorti du bain et il leur a pas dit que c'était quelque chose de permis. Donc on voit que même devant des gens qui ne sont pas des coutumes, il faut pas faire quelque chose qu'on a l'habitude d'interdire. Et la braïta continue, Yotzim bekourdakison beshabbat, on peut sortir dans la rue avec courdakison, c'est une sorte de chaussure qui est large pendant Shabbat, et on ne craint pas que cette chaussure sorte de son pied et qu'il risque de la porter quatre amot dans le Reshout Arabim. Ven yotzim bekourdakison beshabbat bebiré. Mais la Breta dit que dans la ville de Biré, ils avaient l'habitude de ne pas sortir avec cette sorte de chaussure parce que ils craignaient que elle sorte de son pied, que il la porte. Et est arrivé là aussi une histoire avec Yehuda et Hillel, les fils de Rabban Gamliel, qui sont sortis avec cette sorte de chaussure pendant Shabbat dans la ville de Biré. Velaza aleihem amdina ve'amru me'yamenu lo ra'inu kach. Et toute la ville a parlé là-dessus, et ils ont dit, on n'a jamais vu faire une chose pareille. Et là aussi, ils ont tout de suite enlevé leurs chaussures, et ils les ont données à leurs esclaves, et ils n'ont pas voulu leur dire que c'est quelque chose de permis. Et on a le droit de s'asseoir sur les bancs des goyim pendant Shabbat, donc on parle des bancs où ils vendent leurs marchandises. On ne craint pas qu'on les soupçonne de faire du commerce pendant Shabbat, mais dans la ville de Akko, ils avaient l'habitude d'interdire de s'asseoir sur ces bancs où les goyim vendaient leurs marchandises. Et il est arrivé une histoire avec Rabban Shimon Gamliel qui s'est assis sur les bancs des goyim pendant Shabbat à Akko. Et toute la ville a parlé de ça. Ils ont dit, on n'a jamais vu faire une chose pareille. Nishmat al gavé karka velo ratsa lomar lahem mutarim atem. Et quand il a entendu ça, il est descendu du banc, il s'est assis par terre, et il n'a pas voulu leur dire que c'est quelque chose de permis. Alors, on voit de toutes ces histoires que même si c'est pas devant des coutumes, on n'a quand même pas le droit de faire quelque chose qu'eux ont l'habitude d'interdire. Agmara répond, Benem dinatayam nami, kevan delo shrikhera banan gabay ou kekutim damu. Donc les habitants de Medina Tayam, ça veut dire qui habitent dans des endroits reculés, des endroits qui sont éloignés des centres où il y a des Talmidei Chachamim, comme il n'y a pas de Talmidei Chachamim chez eux, donc ils sont considérés comme des coutumes, c'est-à-dire que eux aussi ont craint que par ignorance, si on permet ces choses-là devant eux, ils risquent après aussi de permettre des choses qui sont interdites. La Gemara demande Bishlama, on comprend bien la raison pour laquelle ils ont interdit dans la ville de Akko de s'asseoir sur les bancs où les goyim mettent leurs marchandises, parce que ça donne l'impression que ils font du commerce. Mais cours de Kisson, et on comprend aussi pourquoi dans la ville de Biré ils ont interdit de porter ces chaussures larges, c'est de peur que elles sortent de leurs pieds et qu'ils les transportent quatre dans le Rishout Arabim. Et là au Khatsin, Maïta Amalo, mais pourquoi dans la ville de Kaboul ils ont interdit à deux frères de se baigner ensemble? Agmara dit Kedetania, comme ce qu'on enseigne dans la Braïta, Imakol Adam Rochetz, Chutz Meaviv, Vechamiv, ou Balimo, ou Balachoto. Un homme peut se baigner avec n'importe qui, en dehors de son père, son beau-père, le mari de sa mère et le mari de sa sœur. Et Rashi explique que il doit pas se baigner avec son père, son beau-père ou le mari de sa mère, parce que en voyant sa erva, en voyant leur erva, qui est l'endroit duquel il vient lui ou sa femme, ça risque de l'amener à des mauvaises pensées. Et pareil aussi pour le mari de sa sœur, ça peut l'amener à des mauvaises pensées. Et Rabbi Yehuda matir be'aviv mitnei kvod aviv. Et Rabbi Yehuda permet de se baigner avec son père pour le respect de son père, c'est-à-dire pour pouvoir aider son père au bain, pour pouvoir lui apporter ce qu'il a besoin. Vouadin le ba'alimo, et il permet aussi pour le mari de sa mère pour la même raison. Ve'atu inhu ve'gazur b'shnachim mishum ba'alachoto. Donc puisque on voit dans cette braïta que on n'a pas le droit de se baigner avec le mari de sa sœur. Donc à Kaboul, ils ont aussi fait une xéra et interdit à deux frères de se baigner ensemble à cause du mari de sa sœur, parce qu'ils risquent après de permettre aussi de se baigner avec le mari de sa sœur. Tana, on enseigne dans une braïta, Talmid lo yichatz im rabo, un élève ne doit pas se baigner avec son rave. Pourquoi? Parce que c'est par respect pour son rave, il doit respecter son rave, donc il ne doit pas le voir nu. Et si son rave a besoin de lui, il a besoin de lui pour qu'il l'aide au bain, là c'est permis. Lorsque Rabba Barbar Chana est venu de d'Eretz Israël en Bavel, il a mangé la graisse qui se trouvait à l'intérieur de la panse de l'animal. Alors, il y a des graisses qui s'appellent le chélev qui sont interdites à la consommation, comme on a déjà vu plusieurs fois. Et il y avait différentes coutumes en Eretz Israël et en Babel par rapport à la graisse qui se trouve à l'intérieur de la panse de la bête. Celle qui se trouve à l'extérieur, elle est interdite, d'après tout le monde. Mais celle qui se trouve à l'intérieur, en Eretz Israël, ils avaient l'habitude de la consommer. Et en Babel, ils avaient la coutume de l'interdire. Et quand Rabba Barbar Chana est venu d'Eretz Israël en Bavel, il a mangé ces graisses qui se trouvaient à l'intérieur de la panse, où les gavés Ravira, Sava, Verabba, Bered et Ravuna. Et pendant qu'il était en train de manger ces graisses, Ravira, Sava et Rabba, Bered et Ravuna sont rentrés chez lui, Kevan de Chazin ou Kassier Minayou. Lorsqu'il les a vus, il a caché donc ses graisses pour ne pas qu'il voie qu'il est en train de la manger. À tout vint brûler la baillée, et eux ont quand même vu, ils sont venus rapporter ça à Baillée, à Marléou, Chavin Chouk Ekoutaé. Il leur a dit, il vous a considéré comme des coutumes, c'est-à-dire que comme on avait vu plus haut que quelque chose qui est permis, Minadine, et que certains ont la coutume d'interdire, donc on n'a pas le droit de le permettre devant eux, on a dit que c'est seulement pour les coutumes. Donc si il a fait ça, c'est qu'il vous a considéré comme des coutumes. Et la Gemara demande, Rabba Baba Khana, letle adetna, notnim alaf khumra makom shiatsa misham, ve khumra makom shalaf lesham. Mais est-ce que Rabba Baba Khana ne pense pas, comme ce qu'on enseigne dans la Mishnah, que on lui donne les khumrot de l'endroit qu'il a quitté, les khumrot de l'endroit, dans lequel il s'est rendu? Donc il n'a pas le droit, il doit respecter les coutumes de l'endroit. Si à cet endroit ils ont l'habitude d'interdire ces graisses, donc il n'a pas le droit de la manger. Et ça, c'est un minhag qui a été institué par les Talmidei Chachamim, donc il est tenu de le respecter, même si c'est pas en leur présence. Amar Abaye, an eminem bavel et bavel umeret Israël et Israël. Quand est-ce qu'on a dit que on doit respecter les coutumes de l'endroit dans lequel on s'est rendu? C'est si on se rend d'une ville de Babel à une autre ville de Babel, ou alors d'une ville d'Eret Israël à une autre ville d'Eret Israël, inami mi Babel Eret Israël, ou alors de Babel en Eret Israël, aval meret Israël et Babel, l'eau. Mais quelqu'un qui se rend d'Eret Israël en Babel, il n'est pas tenu de respecter les chumrot de Babel. Pourquoi? Parce que comme nous, les habitants de Babel, on est soumis au chachamim d'Eret Israël, parce que c'était des grands talmidei chachamim, donc ils sont pas obligés de faire comme nous. Alors, Tosfot font remarquer que on ne devrait pas dire avdinan kavatayou, parce qu'avdinan kavatayou c'est on fait comme eux, mais là il s'agit pas de que les gens de Babel fassent comme les gens d'Eretz Israël. On parle des gens d'Eretz Israël qui sont rendus en Babel et qui font comme eux ont l'habitude de faire et qui ne font pas comme le minhag de Babel. Et il dit que c'est simplement parce que à un autre endroit dans Maseret Roulin, on rapporte une histoire inverse de Rabbi Zera qui s'est rendu en Eretz Israël et il n'a pas respecté donc les coutumes de Babel. Il y avait des Khumra qui faisaient en Babel et qui ne faisaient pas en Eretz Israël. Et lorsqu'il a été en Eretz Israël, il s'est conduit comme en Eretz Israël, donc il n'a pas maintenu ses Khumrot de Babel. Et là-dessus, l'Agma dit là-bas que on peut faire comme eux, effectivement, les habitants de Babel qui se rendent en Eretz Israël, puisqu'ils sont soumis à l'autorité des Chachamim d'Eretz Israël, ils peuvent faire comme eux. Mais ici, c'est dans le sens inverse, que les habitants d'Eretz Israël qui se rendent en Babel n'ont pas besoin de respecter les coutumes, les Khumrot de Babel, parce que comme Babel sont soumis à Eretz Israël, donc il ne risque pas d'y avoir de dispute si les habitants d'Eretz Israël le permettent. Ça veut dire que comme on avait vu plus haut, la raison pour laquelle on doit respecter les Khumrot de l'endroit où on se rend, c'est pour éviter que ça crée des disputes. Et ce que Abaye dit, c'est que ça c'est valable seulement entre une ville de Babel et une autre ville de Babel, ou une ville d'Eretz Israël et une autre ville d'Eretz Israël, ou entre Babel et Eretz Israël. Là, effectivement, si on respecte pas les coutumes de l'endroit, ça risque de créer des disputes. Mais lorsque c'est quelqu'un qui vient d'Eretz Israël en Babel, puisque eux sont des grands talmidei chachamim, donc ça risque pas de créer de disputes, ils vont comprendre que, comme c'est des talmidei chachamim, ils savent ce qu'ils font, et donc c'est certainement permis, et donc c'est pour ça que c'est permis. Ravashi Amar a filou tema Eretz Israël et Babel. Ravashi répond que on peut même dire que ce din s'applique même quand on se rend d'Eretz Israël en Babel. On est quand même tenu de respecter les chumrot de Babel. Anemile chaden da'atola chazor. Verabba barbarchana da'atola chazor ava. Mais quand est-ce que on est tenu de respecter les coutumes de l'endroit dans lequel on s'est rendu? C'est seulement si on n'a pas l'intention de revenir chez soi. Alors que Rabba Baba Khana avait l'intention de revenir en Babel, donc c'est pour ça que qu'il avait l'intention, pardon, de revenir en Eretz Israël. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas tenu de respecter les Khumrot de Babel. Alors les Shonim posent la question, mais dans la Mishnah on avait vu que celui qui se rend d'un endroit où on interdit quelque chose, on a la coutume d'interdire quelque chose, et il va à un endroit où on a la coutume de le permettre, il doit respecter les coutumes de l'endroit duquel il vient, donc interdire comme à l'endroit duquel il vient, et là-bas on parle forcément du cas où il a l'intention de revenir, parce qu'à partir du moment où il se déplace définitivement, il est plus tenu de respecter les coutumes de sa ville d'origine. Donc, dans le cas inverse aussi, quand on a parlé de quelqu'un qui va d'un endroit où on a la coutume de permettre et qu'on se rend dans un endroit où on a la coutume d'interdire, on parle aussi certainement du cas où il a l'intention de revenir chez lui, et malgré tout, on a dit qu'il doit respecter les coutumes de l'endroit dans lequel il s'est rendu. Donc, comment ça se fait que Ravachi dit ici qu'il n'a pas besoin de respecter cette coutume? Alors, certains rishonim répondent que on parle ici de la différence, c'est que dans la Mishnah, quand on a dit qu'il doit respecter la coutume de l'endroit où il s'est rendu, donc qui interdisent, c'est Befaresia, si c'est publiquement. Mais si c'est en cachette, si c'est Betsina, il a le droit de se conduire comme son lieu d'origine, ça veut dire de le permettre. Et donc c'est pour ça que Ravashi dit que c'est seulement dans le cas où il n'a pas l'intention de revenir chez lui que il doit respecter les coutumes de l'endroit où il est maintenant, même en cachette. Donc on parle ici même en cachette, puisque Rabba Bar Hana, il avait mangé ces graisses quand il était seul chez lui. Et dès que il y a des gens de l'endroit qui sont venus chez lui, il a arrêté de manger, il l'a caché. Donc on voit qu'il l'a fait seulement Betsina. Donc effectivement, lorsqu'on a dit que quelqu'un qui se rend dans un endroit où on a l'habitude de permettre, à un endroit où on a l'habitude d'interdire, qu'il est tenu de respecter les coutumes de l'endroit, c'est publiquement, mais en cachette, il n'est pas obligé de les respecter, sauf si il s'est rendu définitivement là-bas, s'il a déménagé à cet endroit, où là, il doit respecter les coutumes de l'endroit, même en cachette. Amar le Rabba Bar Bar Hana livne, Rabba Bar Bar Hana a dit à son fils, Beni lotochal lo befanai velo shelo befanai. Lui dit, mon fils, ne mange pas de ces graisses, donc qui sont à l'intérieur de la panse des animaux, n'en mange pas ni devant moi, ni quand tu n'es pas devant moi. Et il lui explique, Ani shiraiti et Rabbi Yochanan shachal, kedayu Rabbi Yochanan ismochala befanav veshelo befanav. Il dit, moi qui ai vu Rabbi Yochanan qui en mangeait, donc je peux m'appuyer sur Rabbi Yochanan, que ce soit devant lui ou même quand c'est pas en sa présence. Donc c'est pour ça que moi je me suis permis de manger ces graisses, même en Bavel. Ata lo raita oto, mais toi qui n'as pas vu Rabbi Yochanan en manger, lo tochal ben befanai ben shelo befanai. Donc tu ne peux pas en manger que ce soit devant moi ou que ce soit pas devant moi. Donc ça veut dire que Rabbi Yochanan, qui était un grand Talmid Chacham, Rabba Bar Bar Hana pouvait s'appuyer sur lui pour en manger. Mais comme Rabba Bar Bar Hana lui-même n'était pas arrivé à la conclusion qu'on avait le droit d'en manger par son étude et par sa réflexion, donc il dit, je ne peux pas t'autoriser à en manger, et toi qui n'as pas vu Rabbi Yochanan en manger, tu ne peux pas te permettre d'en manger, donc que ce soit devant moi ou pas devant moi. Et la Gemara dit, ou pliga d'idée à d'idée. Mais Rabba Bar Bar Hana se contredit à lui-même. De Amar Rabba Bar Bar Hana, parce que Rabba Bar Bar Hana a dit par ailleurs, Sachli Rabbi Yochanan ben Elazar, Rabbi Yochanan ben Elazar m'a raconté, Pa'am achat nichnasti achar Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi ben Nakunia legina. Une fois, j'ai suivi Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi ben Nakunia dans un potager, Venatal sfiché krouv ve'achal venatani. Il a pris des sfichim de choux après le zman du biour, pendant la Shemitah, et il en a mangé, et il m'en a donné. Alors c'est quoi les sfichim de krouv? Les sfichim, c'est des légumes qui poussent sauvagement. C'est-à-dire qu'on ne les a pas plantés. On a cueilli des légumes, et lorsqu'on les a cueillis, il y a des graines qui sont tombées et qui ont poussé toutes seules. Généralement, comme on va voir après, ces sfichim, ils ont le din de biour, comme pour toutes les autres tous les autres fruits et tous les légumes de la Shemitah. Le din de biour, c'est comme on avait vu plus haut, qu'une fois qu'il n'y en a plus dans les champs, on n'a pas le droit d'en garder à la maison, on doit les rendre efker. On a le droit de garder que la quantité de 3 repas. Donc on n'a plus le droit de les garder à la maison. Et là, Rabbi Shimon ben Rabbi aussi en a mangé de ses choux, de ses sfirim de choux, et il en a donné aussi à Rabbi Yochanan ben Elazar. Alors pourquoi? Parce que, comme Rashi explique, on va suivre l'explication de Rashi, bien qu'il y a d'autres explications dans les Rishonim, mais que Rashi lui-même dit qu'il y a des difficultés sur son explication. Mais Rashi explique que la particularité des sfirim des choux, c'est qu'il y en a toujours dans les champs. Ça, à aucun moment les choux disparaissent complètement des champs. Donc le din de biour ne s'applique pas, en tous les cas d'après d'après Rabbi Shimon ben Rabbi aussi, le din de Biour ne s'applique pas aux Svichim des choux. La Gemara va expliquer plus longuement, plus loin. Vea Marli, et donc Rabbi Shimon ben Rabbi aussi a dit à Rabbi Yochanan ben Elazar, Bni befana yechol shelo befana lo tochal. Il lui a dit, mon fils, tu peux manger de ces Svichim des choux devant moi, mais si tu n'es pas avec moi, tu n'as pas le droit d'en manger. Et il lui explique pourquoi. Ani shiraiti et Rabbi Shimon ben Yochai she'achal kedayu Rabbi Shimon ben Yochai yismoch alav befanav shelo befanav. Moi qui ai vu Rabbi Shimon ben Yochai en manger après le zman du biour, donc je peux m'appuyer sur Rabbi Shimon ben Yochai, que ce soit devant lui ou pas devant lui. Ata befanav yechol shelo befanav lo tochal. Mais toi qui n'as pas vu Rabbi Shimon ben Yochai et qui t'appuie seulement sur moi, donc tu peux le faire que en ma présence, mais si c'est pas devant moi, tu n'as pas le droit d'en manger. Donc là aussi, parce que c'est pas lui-même Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi ben Akunia qui a tranché comme ça à cause de ce qu'il a étudié et à cause de sa réflexion, mais seulement parce qu'il s'appuie sur Rabbi Shimon bar Yochai. Donc il lui dit, tu as le droit de le manger devant moi, mais pas quand tu n'es pas avec moi. Donc ça contredit ce que Rabba Bar Hana a dit plus haut, puisqu'il a dit à son fils que même devant lui, il n'avait pas le droit de manger de ses graisses de l'intérieur de la panse. La Gemara demande Maï Rabbi Shimon. Où est-ce qu'on a vu que Rabbi Shimon Bar Yochai a permis les sfirim de Krouv après le bio, d'Etania, parce qu'on enseigne dans une Braïta, Rabbi Shimon Omer Kola Sfirin Asurim, Chutz Misfiché Krouv, Shen Kayotse Baem Bayre Kassade. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que tous les sfirim sont interdits après le zman du biour, à l'exception des sfirim des choux, parce que ils sont différents des autres légumes. Et la différence, comme on a dit, c'est que il reste toujours des choux dans les champs. Va chachamim omrim, alors que chachamim disent kol sfirim asurim, que tous les sfirim sont interdits, y compris les sfirim des choux. Et l'agma explique v'tarvayu aliba de Rabbi Akiva. Et tous les deux pense comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire et Rabbi Shimon bar Yochai et Chachamim pense comme Rabbi Akiva, d'Etania, parce qu'on sait dans une braïta, hen lo nizra velo nesof et tivuatenu. Donc le pasouk dit, Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, vechi tomru manochal bashana shvit, hen lo nizra velo nesof et tivuatenu. Si vous allez dire, qu'est-ce qu'on va manger pendant l'année de Shemitah, puisque on n'a pas le droit de semer et on ne peut pas récolter donc ce que notre récolte, et Rabbi Akiva demande à Tuam, Rabbi Akiva, Vechi me'achar shen zor'in me'echan osfin. Mais puisque ils ne sèment pas, donc comment est-ce qu'ils vont pouvoir récolter? Donc c'est-à-dire que c'est superflu de dire l'oné sof et tvoatenu après qu'ils ont dit que hen l'onizra, que on ne va pas semer, donc forcément ils vont pas récolter puisqu'ils n'ont pas semé. Mikan esfichim shen asurim. Et Rabbi Akiva dit que de là on apprend que les esfichim sont interdits après le zman du biour, et c'est ça qu'ils entendent en disant velo nesof et tvoatenu, ça veut dire que ce qui va pousser tout seul, on n'aura pas le droit de le manger après le zman du biour. Et l'agma dit « Bemaï kamiflégué ». Alors, s'ils sont tous les deux d'accord avec le din de Rabbi Akiva, quel est le point de marloquette entre Rabbi Shimon bar Yochai et Chachamim? Rabbanan savré, gazrinan sfiché krouva toucha sfiché de alma. Chachamim pense que on fait une zéra et on interdit les sfichim des choux après le zman du biour à cause des autres sfichim, des sfichim en général, qui sont interdits minadin. Rabbi Shimon savar, le gazrinan sfiché krouva à tous sfiché de alma. Alors que Rabbi Shimon pense que on n'interdit pas les sfichim des choux à cause des autres sfichim, puisque pour les choux, il n'y a pas de biour parce que il y en a toujours dans les champs, donc il reste toujours permis. Alors les chachamim qui disent que on fait une xéra, mais la question qui se pose c'est quand est-ce que va être le zman du biour des choux, puisque il y en a toujours dans les champs. Alors certains expliquent qu'en fait quand on a dit que les sfichim n'ont pas de il y en a les choux pardon, il y en a toujours dans les champs, ça veut pas dire que il y a la plante elle-même du chou, les feuilles de chou, mais uniquement la racine. Et effectivement, Minatora ça suffit pour considérer qu'il y en a toujours dans les champs, donc il y a pas de biour, mais au moment où il n'y a plus de feuilles, les Chachamim ont fait une xéra et ont interdit donc les choux à cause des autres sfirim, même les sfirim de choux à cause des autres sfirim. Haolech mimakom vechule. On a dit dans la Mishnah que celui qui se déplace donc d'un endroit où on permet de faire des mélachot le matin du 14 Nissan et qui va à un endroit où on a l'habitude de ne pas faire de mélachot le matin du 14 Nissan, ou l'inverse, il va d'un endroit où on a l'habitude de ne pas faire de mélachot et il va à un endroit où on a l'habitude de faire des mélachot, il doit être machmir dans les deux cas et ne pas faire de mélachot. Donc il prend les chumrot et de l'endroit qu'il a quitté et de l'endroit où il s'est rendu. Et la Mishnah continue en disant, va aller chaner Adam pnei machloket, et un homme ne doit pas se conduire différemment de l'endroit où il se trouve à cause des conflits que ça pourrait créer. Et la Gemara demande, bishlama, olechim makom shosin, makom shen osin, notnim alav chumrim, makom shalach lesham, va aller chaner Adam pnei machloket, velo liavid. Pardon. Alors on comprend bien que dans le cas de celui qui va d'un endroit où on permet de faire des mélachot et qui se rend à un endroit où on interdit de faire des mélachot le matin du 14 Nissan, il doit respecter les chumrot de l'endroit où il se trouve et ne pas se conduire différemment à cause des conflits que ça pourrait générer. Donc il doit pas faire de mélachot. Et là, mimakom shen osin, mimakom she osin, mais celui qui va d'un endroit où on a l'habitude de ne pas faire de mélachot et qui se rend à un endroit où on a l'habitude de faire des mélachot, Ali Shane Adam Machloket, alors s'il doit pas changer de l'endroit où il se trouve pour ne pas créer de dispute, alors ça veut dire qu'il doit faire des mélachot, comme l'endroit où il se trouve. Ah Martin, Makom, mais on a dit précédemment que il doit prendre et les chumrot de l'endroit où il est allé et les chumrot de l'endroit duquel il est parti. Donc il doit aussi respecter les chumrot de l'endroit duquel il est parti et ne pas faire de mélachot. Or, ça contredit la suite de la Mishnah qui dit que il faut pas se conduire différemment de l'endroit où on se trouve à cause de la machloket. Amar Abaye, Aresha. Abaye dit effectivement, quand la Mishnah dit Alishane Adam pnei machloket, elle se rapporte à la Resha, au cas, dans le cas où il va d'un endroit où on a l'habitude de faire de mélachot et qui se rend à un endroit où on a l'habitude de ne pas faire de mélachot, là, effectivement, la raison pour laquelle il ne doit pas faire de mélachot, c'est pour ne pas se conduire différemment de l'endroit où il se trouve, pour ne pas créer des disputes. Mais, dans le cas contraire, dans le cas où il va d'un endroit où on a l'habitude de faire des mélachot et d'un endroit où on a l'habitude de ne pas faire de mélachot et qui sera un endroit où on a l'habitude de faire des mélachot, là effectivement, même si le fait de ne pas faire de mélachot risque de créer des disputes, mais malgré tout, il est tenu de respecter ses propres coutumes, les coutumes de l'endroit d'où il vient, et donc il ne devra pas faire de mélacha. Rava Amar, Leolam Asefa. Rava dit non. On peut toujours dire que cette phrase de Alechane Adam, Mipnea Machloket, se rapporte aussi à la Sefa, au cas de celui qui vient d'un endroit où on est mahmir de ne pas faire de melachot et il sera un endroit où on permet de faire des melachot. Et Ve'achi Ka'amar, et voilà ce que la Mishnah veut dire, En bezo mipnei shinui ha-machloket. Il n'y a pas de problème de machloket dans ce cas-là. Ça veut dire que il faut lire la Mishnah comme ça, Ve'alechane Adam. Alors tu vas me dire, mais dans ce cas-là, il ne doit pas se conduire différemment, donc il devrait faire des mélachot. Et la Mishnah répond, Mipnei Hamachloket. La raison pour laquelle il ne doit pas se conduire différemment, c'est pour ne pas créer des conflits. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de risque de conflit. Pourquoi? Maïka Amart, qu'est-ce que tu veux dire? Aroé Omer Melacha Asura, celui qui va le voir ne pas faire de mélachot, il va dire, ah, ça veut dire qu'il considère que les mélachot sont interdites. Or, nous, on a l'habitude de le permettre, donc il pense différemment de nous, et c'est ça qui va créer des conflits. La Gemara dit non. Mais Maramre, Kama Batlane, Shuka. Les gens qui vont le voir, ils vont pas dire que ils pensent qu'on n'a pas le droit de faire de mélachot. Ils vont dire non, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, beaucoup de gens qui sont oisifs dans les rues. Donc ça ne veut pas dire. Le fait qu'il ne fasse pas de mélacha ne veut pas dire qu'il pense que c'est interdit, donc ça ne va pas amener à des disputes. Amar les Rav Safra les Rabbi Abba, Rav Safra dit à Rabbi Abba, Kegon anan de adinan bikvia de archa, beyishuv lo avdinan pneshinu amachloket, bemidbar mai. Il lui a demandé, dans notre cas, c'est-à-dire nous qui venons d'un endroit où on sait quand est-ce que Rosh Chodesh a été fixé, donc on n'a pas de doute par rapport à Yom Tov. On sait quand tombe Yom Tov, on n'a pas besoin de faire 2 jours de Yom Tov. Et si on se rend à un endroit où ils ne savent pas quand est-ce que Rosh Chodesh a été fixé, Et donc, eux doivent faire 2 jours de Yom Tov. Alors, il dit, dans la ville, on ne fera pas de Melacha pour ne pas se conduire différemment et créer des disputes. Mais est-ce que Bamidbar Mai, dans le désert, ça veut dire à l'extérieur de la ville, dans un endroit qui n'est pas habité, est-ce qu'on a le droit de faire des Melachot ou pas? Alors, le Marsha pose la question, il dit, mais comment c'est possible que qu'on arrive à une situation pareille, où quelqu'un qui vient d'un endroit où on sait quand est-ce que Rosh Chodesh a été fixé, se rend à un endroit où on ne sait pas quand Rosh Chodesh a été fixé, et il faut faire là-bas 2 jours de Yom Tov. Puisque, en fait, comment ça se passe? À l'époque, donc, ils fixaient Rosh Chodesh d'après le témoignage de la Nouvelle Lune, donc les témoins allaient à Yerushalayim au Beit Din HaGadol, où ils témoignaient de la Nouvelle Lune, et à ce moment-là, ils fixaient Rosh Chodesh. Et après, ils envoyaient des émissaires partout pour leur annoncer quand est-ce que Rosh Chodesh avait été fixé. Et il y a des endroits où les émissaires arrivaient avant Yom Tov, et donc ces endroits faisaient un seul jour de Yom Tov, et il y a des endroits où les émissaires ne pouvaient pas arriver avant Yom Tov, qui habitaient des gens qui habitaient trop loin. Donc là, ils devaient faire 2 jours de Yom Tov dans le doute, parce qu'ils ne savaient pas si Rosh Chodesh avait été fixé le premier jour ou le deuxième jour. Et le Marsha demande si ces gens-là, si Rav Safra peut se rendre à un endroit pendant Yom Tov, avant Yom Tov, donc c'est que les émissaires peuvent aussi arriver là-bas. Donc il n'y a pas de raison que là-bas ils fassent un seul jour et qu'ils fassent 2 jours, ils devraient faire aussi un seul jour. C'est-à-dire que si Rav Safra a eu le temps de savoir quand est-ce que Rosh Chodesh a été fixé et de se rendre à cet endroit, donc les émissaires aussi peuvent arriver là-bas. Alors, le Rabbi Akiva Eiger répond, c'est également ce que Tosfot dit dans Massechet Souka, c'est qu'en fait, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah qui dit que à Soukhot, il y avait moins, les émissaires pouvaient arriver moins loin. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour où ils ne pouvaient pas voyager, donc ils pouvaient pas arriver aussi loin que, par exemple, à Pessah, où ils avaient plus de temps, donc pour pouvoir se rendre dans des endroits qui étaient plus loin. Mais malgré tout, les endroits où ils ne pouvaient pas arriver à Soukhot, même à Pessah ils devaient faire 2 jours, même si à Pessah ils savaient déjà quand est-ce que Rosh Chodesh avait été fixé. Donc c'est de ce cas de figure qu'il parle. Donc Rav Safra s'était rendu à Pessah, à un endroit où il faisait 2 jours, parce que à Soukhot, les témoins n'arrivaient pas là-bas. Et donc, la question qu'il a posée à Rabbi Abba, c'est qu'il lui a dit, dans la ville, c'est sûr que je ne ferai pas de Melacha à cause de Shinui HaMachloket, c'est-à-dire pour ne pas me conduire différemment et créer des conflits. Alors, quand on parle ici de Yishuv, un endroit habité, les Poskim expliquent qu'il s'agit d'un endroit qui est habité par des Juifs. Et il dit, je ne ferai pas de travaux pour ne pas créer de disputes. Tosfot explique que c'est même Betsinra, ça veut dire que même en cachette et même quand il a l'intention de revenir chez lui, on n'a pas le droit de faire de Melachot, bien que on avait vu plus haut que dans l'histoire de Rabba Bar Bachana avec les graisses qu'il avait mangées, qu'on a le droit de le faire quand on le fait discrètement, quand on ne le fait pas avec faire les serres, on ne le fait pas publiquement. Mais Tosfot dit que comme il s'agit d'une Melacha, que généralement une Melacha, c'est quelque chose qui se sait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Donc, les Chachamim ont interdit complètement de faire des Melachot pendant le deuxième jour de Yom Tov, dans les endroits où on fait 2 jours de Yom Tov. C'est une marque locale entre les Poskim, mais le Mishnah Berurah et encore d'autres Poskim tranchent qu'effectivement, pour Yom Tov, même Beit Sina, on n'a pas le droit de faire de Melacha dans un endroit où on fait 2 jours. Et il pose la question, mais quand je suis en dehors d'un endroit qui est habité, c'est-à-dire en dehors du Troum, de la ville, comme les poskim l'expliquent, quel est le dîn? Amarle, Rabbi Abba lui a dit, Achi Amar Ravami, voilà ce que Ravami a dit, Beishuv Asur, Bamidbar Mutar. Quand on est dans un endroit qui est habité par des juifs, on n'a pas le droit de faire de Melacha, mais si on est en dehors du Troum de la ville, dans un endroit qui n'est pas habité, là, on a le droit de faire des Melachot librement, quand on vient d'un endroit où on fait qu'un jour de Yom Tov.